Chers amis, bonsoir, un plaisir de se rencontrer ici ce soir. Tout d'abord, un grand merci à Alice et Jérémy pour avoir organisé ce cours. C'est vrai que c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir dans une maison à tour de Torah, parce que moi, on évite de se crier dessus, on évite de s'énerver. Bonsoir, tu vois l'Est. Alors, je viens de Pontocombo en Seine-et-Marne, et c'est vrai qu'à Pontocombo, à 9h, les gens, ils dorment déjà. C'est un autre monde, passer la frontière 94-77. Donc, c'est bien de venir des fois dans un autre monde, un autre pays dans lequel les gens, ils sont déjà, ils arrivent à peine à 9h, c'est un autre monde. Alice m'a prévenu que ce soir, on a beaucoup d'érudits parmi nous. Et donc, on va échanger ensemble sur la fête qui approche. On est à moins de 30 jours de la fête de Pessah. Tout le monde a reçu les feuilles pour l'examen. On va voir ensemble, chers amis, une des notions les plus riches et surtout importantes en ces temps. On vient de passer 180 jours depuis le 7 octobre. Et c'est vrai que parfois, on se demande des questions. Comment avoir une vie plus paisible, une vie plus tranquille? Comment éviter les ennuis? Comment éviter les casse-têtes? Comment ne pas avoir de stress? Pour ça, je pense qu'il y a des professionnels ici en la matière. Mais on va voir, on va faire un tour ensemble et essayer de comprendre en voyant ce que la Torah nous a écrit par rapport à comment s'est passée la sortie d'Égypte. Le cours, il est l'Eilou Nishmat Rachamim Ben Aziza, on est en plein dans l'année. Et bien sûr, aussi pour l'anniversaire d'Adam, aujourd'hui, son anniversaire. Donc, tout celui qui n'a pas amené de cadeau ce soir, il est prié de le faire avant Shabbat. Jérémy Denchez. Et aussi, bien sûr, ce soir et demain, c'est l'anniversaire de la Rabbanit Chaya Mushka, la femme du Rabbi. Et c'est aussi à quelques semaines de l'anniversaire du Rabbi, le 11 Nissan. C'est aussi le Shabbat qui va bénir le mois de Nissan. Shabbat la semaine prochaine, Rosh Chodesh. On est en plein dans la période du bonheur, comme on dit. Cette semaine, j'ai donné un cours, c'était dans le 17e dimanche soir, c'était sur la résilience. Quel est le secret de la survie du peuple juif? Vous pouvez voir sur etora.fr, comme tous les cours, ainsi celui de ce soir. Et une des questions qu'on va se demander ce soir ensemble, on va tous fêter Pessah, tout le monde pose les quatre questions, les enfants comme les adultes. Et on va voir ensemble une des questions fondamentales par rapport à la sortie d'Égypte. C'est bien que Jérémy s'assoie juste en face parce que tu auras toutes les questions. Et la question, elle est, qu'est-ce qui s'est passé à l'exil en Égypte? Combien d'années nous étions exil en Égypte? Combien d'années réellement nous avons subi l'esclavage? Qu'est-ce que nous fêtons à la fête de Pessah? On fête bien sûr la sortie d'Égypte. Alexandre, ça te parle, tu étais une fois en Égypte, cher ma chère, Sinaï? Non? Jamais? Bon. T'as déjà été en Égypte? Où?
Le seul.
Le seul? Quelqu'un d'autre? Ok. La question, elle est, comment se fait-il que la Torah elle-même mentionne plusieurs dates et plusieurs chiffres par rapport à l'esclavage en Égypte? Faisons un tour de table rapidement, monsieur le rabbin, combien d'années on était en Égypte?
Trop longtemps,
ça c'est pas une réponse.
C'est une réponse de juif.
C'est une réponse de juif.
400 ans.
Qui c'est qui a dit 400 ans? Vous avez dit 400 ans. Qui d'autre? 217.
98.
Ok, 217, 400. 240.
98.
Qu'est-ce que vous dites, vous?
400.
400. On est aux enchères. Hein? Après, on va voir. Qu'est-ce que dit M. le rabbin en face?
430.
Qu'est-ce que vous dites, vous, vous cachez derrière le mur? Personne ne va échapper, tout le monde va parler ce soir. Jennifer, qu'est-ce que tu dis?
Moi, je serais parti sur 400.
Pourquoi pas? 1800?
Pour le prix, c'est pas... Il y avait une histoire comme quoi, au final, ça avait été...
Tu viens faire le cours. Qu'est-ce que vous dites, vous?
98
ou 90?
210.
210 ans, jour et nuit, on a divisé. Wow. C'est du haut niveau, comme on dit.
420,
210. Bravo. Qui d'autre? Sur la main?
Je suis d'accord avec cette
version. Vous êtes d'accord avec cette version? Ok, pourquoi pas? Ça coûte pas cher. Qu'est-ce que vous dites, vous, derrière, caché?
450.
Qui dit mieux, exactement. Ok. Maintenant, la vérité, elle est qu'on va voir ce qui est écrit dans la Torah. On va passer les versets ensemble. Et on va voir le premier verset que la Torah nous dit, c'est dans la paracha. Lech lecha. Quand Dieu parle à Abraham. Et la paracha en plus. Alors, c'est combien d'années t'as dit, toi?
Regarde le
passage,
j'ai
un peu le finir. Après, t'as fait. 116, d'accord. La Torah nous dit, quand Dieu il a parlé à Abraham, il a fait cette fameuse alliance, Brit Ben Abetarim. On dit qu'il y avait à ce moment-là un feu avec Dieu, il a demandé de couper des animaux et passer au milieu. Et il a fait ce lien éternel avec Abraham et le peuple juif. Et là, la fameuse phrase que Dieu il a dit à Abraham, c'était, regardez dans le chiffre 1, Bereshit chapitre 15. Sache que ta descendance, tes enfants, seront des étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Ils vont être asservis, ils vont devoir souffrir. Qui veut dire 400 ans. Ça, c'est le premier chiffre que la Torah nous donne. Qui a dit 400?
Non.
Non. Celui qui a dit 400 sera récompensé après. Magnifique. Maintenant, Dieu prépare Abraham au départ. Dieu prépare Abraham au départ. Et Dieu dit à Abraham, sache que tes enfants, ils vont subir 400 ans. On va rentrer dans les détails après. Ce qui est incompréhensible, c'est pas normal, on n'a absolument rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il dit à Abraham, sache que tes petits-enfants plus tard ils vont souffrir, pourquoi, quelle raison? Mais on va voir ça ensemble plus tard. Ok. Les années passent, on arrive dans la paracha dans le Sefer Shemot, qui est le livre de l'Exode, paracha de Bo. Et là on voit tout d'un coup comment, un matin, sans aucune raison, des millions de personnes deviennent libres. Et là la Torah regarde en arrière. Et la Torah commence à faire le calcul, combien d'années nous étions réellement en Égypte. Je vous dis que ça, c'est des choses qu'on peut parler pendant les 7 heures de Pessah, si Dieu veut. Shemot, chapitre 12, vous avez ici dans la deuxième, dans, toujours dans le premier paragraphe. Qu'est-ce que dit la Torah? Moshav ne Israël, Asher Ajou Mitzrayim, combien d'années nous étions ainsi en Égypte? Shloshim Shana, Ve'arba Meot Shana. Ça veut dire quoi?
430.
Bravo. Qui c'est qui a dit 430? Personne. Qui a dit 470? Toi, t'as dit 430? Bravo. Comment tu t'appelles? Ah ben Jérémy, tu vois, il y a de concurrence ce soir. Okay. D'accord, donc 430. Maintenant, la Torah, je dis clairement, elle te parle ici de ce qui s'est passé, elle te parle ici au passé. On est resté 430 années. Maintenant, la première question, elle est si Dieu, il a dit à Abraham, il y a quelques générations en arrière, 400 ans, pourquoi on a rajouté un 8%? C'est quoi les impôts, les taxes, l'inflation? Qu'est-ce qui s'est passé que d'un coup de 400, on est passé à 430? C'est numéro 1. Midrash Tanchuma, qui est le fameux Midrash de la Torah, il vient et te pose cette question en te disant Areshner Ktuvim Machishim Zadze, on a ici une contradiction. C'est pas normal. Dieu dit à Abraham 400, la Torah elle vient et te dit 430. Qu'est-ce qu'il y a, l'inflation? On n'était pas en 2024 avec Emmanuel Macron. Pas de logique derrière, la Torah ne s'amuse pas avec des chiffres comme ça. Mais la plus grande question qui dérange, c'est que ce qu'on vient de dire, c'est 100% faux. Ni 400 et ni 430. Nos ancêtres n'étaient pas en Égypte, ni 400, ni 430. On va faire le calcul ensemble, comme je sais qu'on a plusieurs comptables parmi nous. C'est très simple, vous allez voir, on va faire le calcul et vous allez voir qu'on est loin du compte. Ni 400, ni 430, et pourtant, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on va lire ce Shabbat. Vous savez que ce Shabbat, on sort de Sefer Torah, on va lire la paracha à Chodesh. Et dans la paracha, on va nous raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et on va voir comment la Torah nous raconte, bonsoir, bonsoir, on va voir comment la Torah nous raconte toute cette histoire. La Torah ne parle pas de 430 ans. Prenons l'exemple de la famille de Moshe. La famille de Moshe, bonsoir, la famille de Moshe, qui est celle qui a été la plus connue. La paracha Vayigash, on nous dit que Kehat ben Lévi, le Kehat, le fils de Lévi, est descendu en Égypte avec 70 âmes, 70 personnes. D'accord. Après ça, on nous dit qu'Abraham, il a donné naissance à Moshe. Korach a vécu 133 ans. Abraham a vécu 137 ans. Moshe, à la sortie d'Égypte, il avait quel âge?
80.
Bravo, 80 ans. Ensemble, ça fait déjà 350. On a dit 133, 137 plus 80, 350. C'est que même si on va dire que Kehat est descendu en Égypte en tant qu'un bébé d'un jour, ce qui n'est pas le cas, sont passés minimum 350 ans depuis qu'il est arrivé en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte. Maintenant, on sait très bien que Kehat n'est pas descendu en Égypte à un jour parce que sa petite sœur, qui était Yochaved, est née dans les murailles en rentrant en Égypte. Alors on avance dans notre calcul et on voit ici qu'il est né et il était déjà certainement un enfant, voire un adolescent à la sortie d'Égypte. Plus que ça, il a eu Abraham au milieu de sa vie. Abraham n'a pas eu son fils à l'âge numéro 1 ou à l'âge numéro 100. Il a eu certainement au milieu de sa vie aussi. Donc d'une certaine manière, les âges et les années, ils étaient, on va dire, ils se sont mélangés. On est bien obligé de dire que la période totale de la présence juive en Égypte, moins de 350 ans. Comment on est arrivé ici à 400-430? Première question. Ce n'est pas ma question. Question de Rashi, commentateur français de la Torah, de Troyes. Vous pouvez voir le Rashi, vous l'avez écrit. Rashi te dit, Yef Shalomar, on ne peut pas dire, Beretz Mitzrayim, qu'on était en Égypte 430 ans. Parce que Kehat, qui est venu avec Yaakov, si tu calcules ses années 133, les années d'Abraham 137, les 80 ans de Moshe, tu ne trouves pas 400 ans. On est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardons le Chumash lui-même. On parle toujours de l'Ancien Testament pour ceux qui ont des doutes. Bereshit, qui est le premier livre. Comment traduit Bereshit? Non, le livre. Genèse. Merci. Pas le traiteur. Le livre. Genèse. La Torah, elle te dit chapitre 42, verset 2. La Torah, elle te dit Shamati, j'ai entendu. On sait très bien qu'il y avait une famine en Israël. Il fallait manger en Égypte. Qui a chavé le Mitzrayim, redou Shama. Jacob, il dit à ses enfants, j'ai entendu qu'en Égypte, il y avait l'abondance. En Israël, il y avait la famine. Va chercher à manger, dit à ses enfants, allez chercher à manger en Égypte. Et il dit le mot redou, descendez. Il n'a pas dit le chou, allez. Et la Torah, elle le dit. Pourquoi il a employé Rashi? Tu as dit, pourquoi il a employé ce mot redou qui est un peu bizarre, on n'entend pas en général. Redou, c'est le compte numérique 210. Resh, 200. Dalet, 4. Vav, 6, ça fait 210. De là, on apprend que nos ancêtres étaient esclaves en Égypte 210 ans. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que c'était jour et nuit. 420, 210. En tout cas, on dit 210. Maintenant, la question, elle est, si c'est comme ça, ce Shabbat, on va lire dans la paracha de Boa Chodesh. Dans 3 semaines, on va tous s'asseoir. Ça, le tabli seder va raconter la Haggadah. On te rappelle encore une fois, depuis Abraham, on te raconte 430 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis, de 430 est passé à 210. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais ce n'est pas fini. Parce que même 210 ans, on n'était pas en Égypte. Même 210 ans, il n'y a pas eu d'esclavage. C'est pour ça que je dis, la Torah ne raconte pas ici des histoires. La Torah, ce n'est pas un roman qui a été écrit par je ne sais pas qui pour te faire juste gonfler les chiffres. Ça va donner des choses exactes, et surtout qu'on ne parle pas de quelque chose de joyeux, on parle de l'esclavage du peuple juif en Égypte. La question, elle est que, parmi ces 210 ans, la grande majorité, c'était des meilleures années qu'on a eues en Égypte. C'était les années de bonheur. C'était les années dans lesquelles le peuple juif florissait, le peuple juif était riche, le peuple juif n'avait pas de problème d'esclavage ni quoi que ce soit. D'abord, on sait très bien que dans la paracha Vayechi, qui est la dernière paracha de Chumash Bereshit de Genèse, Yaakov, il te dit, le premier verset, c'est quoi? Vayichi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim, Shva Esre Shana. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Et c'est connu, ce que l'explication de tous les commentateurs te disent, que Yaakov, il n'a pas juste vécu, c'est pas qu'il vivait, mais en esclave. Il a dit que c'était les meilleures années de sa vie. Donc il y avait une grande partie dans laquelle le peuple juif était en Égypte, que c'était paradis sur terre. Pas comme aujourd'hui certains qui vont à Sharm el-Sheikh ou ailleurs, je sais pas si aujourd'hui, après le 7 octobre, mais en tout cas, les gens, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de bien. Les Chachamim nous disent plus que ça, que tout le temps que les tribus vivaient, les 12 tribus, il n'y a pas eu l'esclavage. Lévi était la dernière des 12 tribus qui est partie de ce monde, et lui, il est parti de ce monde 94 ans après qu'ils sont arrivés en Égypte. Ça veut dire que si je calcule 210 moins 94, le maximum qu'on pourrait dire éventuellement l'esclavage, 116. On était descendu de loin, comme on dit, descendu de haut. Regardons ça, on voit ça dans le Shemot, chapitre 6, verset 16. Vous avez là tout le calcul avec l'explication de Rashi. Je descends encore moins. Même 116 ans, il n'y a pas eu d'esclavage. Pourquoi pas même 116 ans? Parce que c'était plus ou moins, on va dire, c'était une manière de mettre les travaux forcés, de faire savoir qu'il va avoir un changement d'air, un changement de temps. L'esclavage réel a duré combien? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense. Bravo. Sur le Rabbin Guez, que Dieu vous bénisse. 86 ans. Vous savez ce que ça veut dire 86 ans, on est descendu de 430. 86 ans, et d'où on le sait, on allusionne le chiffre 86 à Myriam. Myriam, on dit que Myriam, ça fait allusion au nom Merirut, l'amertume, et ça fait allusion au fait que Myriam, elle avait 86 ans quand elle est sortie d'Égypte. Et de là, on sait que c'était plus ou moins la période de l'esclavage en Égypte. Vous avez ça dans le Midrash Rabbah, chapitre 26, verset 1. Chez Mod Rabbah, vous avez ça dans la feuille, c'est... Bravo. Vous l'avez dans la feuille au milieu, Weimar Rotreyem, qu'elle est née, donc elle avait 86 ans. Ça veut dire que de 430, on est passé à 116, on est passé à 86, ça fait plus ou moins 20%, un cinquième de 430. Alors, chers amis, je vous demande la question. Vous êtes assis à la table du Seder ce soir, avec les matzot sur la table, avec de la pizza et tout ce que vous voulez, mais en matzot. Et vous avez Adam qui pose la question. Et il vient et il te dit, maman, combien d'années on était en esclave? Combien d'années on a souffert en Égypte? Et Jérémie qui répond, maman, elle est à la cuisine, elle est occupée, elle n'a pas le temps de répondre, moi je connais la réponse. Regarde ce que tu viens de lire qu'on était en esclave, on était en Égypte 430 ans. Et Adam qui est très intelligent, il te dit, écoute, c'est pas ce que la prof m'a appris à l'école, c'est pas ce que j'ai appris avec, je sais pas, avec mon grand-père, 86 ans. C'est quoi ce décalage? Encore une fois, la Torah n'est pas un jeu de mots. Torah Melashon Hora, la Torah elle vient pour nous enseigner des leçons pour la vie de tous les jours. Et la Gemara elle-même, on va tout de suite voir la Gemara Megillah, page 9, qu'on vient d'apprendre à la progression de Purim, te dit que c'est un dilemme énorme qui a existé et qui a dérangé plusieurs fois les sages du peuple juif. On sait très bien qu'à une certaine période, les sages grecs ont demandé de traduire la Torah. Et Talmai, il y a plus de 2000 ans, qui était le roi égyptien, il a demandé de traduire la Torah en grec. Et il a invité 70 sages du peuple juif. Il les a mis chacun dans une autre chambre. Il ne voulait pas qu'ils se communiquent. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas... Qu'est-ce qu'on appelle Facebook, il n'y avait pas tout ce qu'on voulait, il n'y avait pas non plus ChatGPT à l'époque, ça n'existait pas. Et ils ne voulaient pas qu'ils s'arrangent et se donnent des codes pour savoir qu'est-ce qu'il faut déformer pour pas qu'on dise qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans la Torah. Et Dieu, il a fait en sorte qu'ils ont eu ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, un souffle divin, qui a fait que Ils ont tout fait pour qu'ils ne soupçonnent pas qu'il y a quelque chose qui est faux dans la Torah. La Megillah 9, chapitre 9, la Megillah page 9, nous raconte une histoire avec Talma. Il a rassemblé 72 personnes âgées qui les a mis dans 72 chambres. Il les a pas dit pourquoi. Il leur a dit, racontez-moi ce qui est écrit dans la Torah. Dieu, il a fait en sorte qu'ils savent et qu'ils écrivent exactement ce qu'il faut. Et eux, ils ont écrit, peuple juif était en Égypte 400 ans. Maintenant, à la place d'écrire qu'ils étaient en Égypte 400 ans, vous voyez que ça s'est souligné en noir, ils ont rajouté, Bishar Atzot Abamot. Ils étaient en Égypte et dans les autres terres 400 ans. C'est quelque chose qu'ils ont, si on peut dire, déformé, rajouté, pour qu'ils ne soupçonnent pas, parce qu'ils savaient très bien que Talma, il n'était pas bête. Et qui viennent et qui disent, écoute-moi, cher ami, il n'y avait pas 400 ans, il n'y avait même pas, comme on vient de voir, 86, donc ils ont rajouté ces deux mots pour être conformes à la réalité. Très bien. Maintenant, comme j'ai dit, ça c'était à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils avaient un roi qui leur forçait à venir raconter la Torah. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas... Alors, avant de rentrer dans tous les détails, surtout de comprendre, parce que la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est comment avoir une vie pénible, tranquille? Comment pouvoir vivre sans stress? Comment vivre malgré tout ce qui nous entoure, malgré les nouvelles que les gens entendent à longueur de journée? On va rentrer après dans ça aussi, mais la réalité, elle est... Commençons à comprendre ce décalage qu'on a eu au départ entre 430 et 400. Première fois, on a vu c'était 400. Après, on est arrivé à 430. Si quelqu'un se rappelle, ça c'était le calcul qu'on a eu. C'était quoi ce premier décalage qu'on a eu, 430-400? Il y a les commentateurs qui te disent que la réponse, elle est écrite clairement, puisque c'est écrit dans la Torah. La Torah ne te dit pas qu'ils étaient assis. Be'eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte, 400-430, c'est-à-dire dans la partie géographique qui retourne l'Égypte. Dieu, il a dit à Abraham, ils seront esclaves, Be'eretz Dolaem, dans une terre qui n'est pas la leur. Il n'a pas dit où. Ça peut être n'importe où. Ce n'est pas écrit l'Égypte. Ça, c'est un des commentateurs qui vient et te dit, commence pas à faire comme si la Torah t'a parlé directement sur l'Égypte. La parasha de Bo, qu'on va lire ce Shabbat, et qu'on va lire aussi dans la Haggadah, on voit dans le chiffre 2 que vous avez dans la feuille, Shema 12, la Torah elle te dit, ils étaient installés Bemitzraim, en Égypte, 430 ans, et après la Torah elle te dit, Vahim, Miketch, le Shimshana, après au bout de 430 ans, Vahim, Be'etzem Ayomazé, ce jour-là, ils sont sortis, Me'eretz Mitzraim. Et là on voit un changement. Au départ, la Torah elle te dit, ils étaient assis en Égypte, en large, après elle te dit, la terre d'Égypte. Pourquoi tout d'un coup la Torah rajoute le mot « la terre d'Égypte » Elle te fait ici une différence. Parce que d'un côté, on te parle de la terre d'Égypte, qui était dans tout ce qui était la géographie égyptienne. C'était ni 430, ni 400, seulement 210. Bon, on a vu l'esclavage 86. Mais dans la psychologie égyptienne, dans l'idéologie égyptienne, là, ils étaient plus environ 430 ans. Et là, on commence à avoir un début de réponse. Mitzrayim, en hébreu, c'est quoi? Pas seulement une terre. Mitzrayim ne veut pas seulement dire l'Égypte. Comment on traduit Mitzrayim? Monsieur le rabbin, Égypte, c'est... Non, quelqu'un d'autre, dis-moi, tu connais pas, t'as entendu la terminologie Metzar, qu'est-ce que ça veut dire Metzar? Hein?
Enfermé.
Enfermé, un peu plus. Quelqu'un a dit autre chose tout à l'heure? Je n'entends pas. Frontière? Metzar, vous voulez, ça veut dire les frontières, c'est l'étroitesse, les barrières, les limites. Metzar, vous voulez dire quelqu'un qui est enfermé dans des barrières. Et on va tout de suite voir, sortir d'Égypte, c'est pas seulement... Géographiquement parlant, tu passes la frontière. C'est psychologiquement parlant. Hein?
Israël, ça finit par, ça commence par les mêmes lettres.
Tout à fait. Ben pourquoi tu n'as pas fait le coup?
Non.
Ok. J'étais en Russie, j'étais en 94, je compte à chaque fois 94, 95, pour organiser des sédarines publics, c'était en Ukraine, Russie, 4 ans après la défaite du communiste officiel. Et j'étais en Ukraine pour organiser un sédar public. On a l'habitude, en général, les élèves de la Yeshiva Chabad, on va dans tous les endroits où il n'y a pas de communauté organisée pour organiser des sedarim. Dans les quatre coins du monde, ça se passe aujourd'hui aussi. Je rappelle comme aujourd'hui, c'était 4 ans après le communiste officiellement, il n'y a plus de communistes. On organisait des sedarim publics, on organisait les offices. Il fallait voir des gens adultes, de 60, 70 ans, 80 ans plus. Et quand on marchait dans la rue, ils entendaient des pas derrière, ils se retournaient pour savoir s'il y a quelqu'un qui les suit. On parle de 4 ans après, officiellement, à la chute du communisme, en 94. Je ne parle pas de comment c'était la prière. Cette crainte, cette panique, avec quoi ils ont grandi pendant tellement d'années sous le communisme, même si officiel, c'était déjà libre, on pouvait faire ce qu'on veut, il n'y avait plus de communistes dans la rue officiellement. Dans leur mental, c'était toujours enfermé, comme si on est toujours poursuivi. Pas encore sorti d'Égypte. Tiens, quelqu'un que Dieu nous en préserve, il a un problème de cœur, le docteur lui a dit qu'il faut qu'il aille faire le bout du monde pour se faire opérer quoi que ce soit. Et qu'il va avoir une anesthésie générale, et qu'il va être hospitalisé pendant une semaine ou deux, mais l'opération se passera dans 3 mois, il n'y a pas d'urgence. Il ne commence pas à paniquer quand il rentre dans le bloc opératoire. Il commence à paniquer aujourd'hui pour se dire qu'est-ce qui va se passer, comment il va se voir, il commence à avoir des problèmes de sommeil la nuit. toute cette période est considérée préparatoire pour l'opération. C'est exactement la même chose que la Torah nous dit par rapport à l'Égypte. Regardez ce que le Sifte Cohen, le Shach, nous dit, qui était un des grands sages de Tzfat de sa fête de 400 ans. « Achayajvou be Mitzrayim » Il dit, c'est pas écrit « Be'eretz Mitzrayim » en terre d'Égypte. « Ela be Mitzrayim milashon matzor » Matzor qui veut dire comme un enclave, une barrière, psychologiquement parlant, qu'ils étaient soucieux de la souffrance qui risque d'arriver, etc. Maharal de Prague, il y a 500 ans, qui était un des grands ancêtres du Rabbi de Lubavitch, Jan Mourazaken, etc., connu à Prague avec le fameux Golam, etc. Il te dit la même chose. Pourquoi on appelle les Shivat Mitzrayim qu'ils étaient en Égypte alors qu'ils n'étaient pas encore en Égypte, ils étaient Be'eretz Canaan en Israël? Leur but était de descendre en Égypte. Sans arrêt, ils pensaient à l'Égypte, que ce soit par rapport à Yosef qui a été vendu, que ce soit par rapport à aller chercher à manger. Donc ils avaient ce contact direct avec l'Égypte. Et donc comme ça, on t'explique la première partie qu'en réalité, quand Dieu dit une terre qui n'est pas la leur, la terre de Canaan, à l'époque, était aussi pas la leur. On n'était pas encore arrivé en Israël, être sur notre terre, c'était aussi pas la leur. Et donc, Dieu l'a calculé comme ça, ses premières 400 ans. Très bien, avec ça, on a répondu la première partie qui est 400 ans, 430. Mais on est loin du compte par rapport à 116, par rapport à 86, et surtout comment ces 210 ans qu'on a vu qu'ils étaient en Égypte, ils se sont minimisés, se sont rapetissés tellement à 116 années, et moins que ça, on a dit un cinquième du plan initial, 86 ans d'esclavage au final. Vous allez dire, bien sûr, 86 ans d'esclavage, c'est pas rien, c'est toute une vie, c'est plusieurs générations. Mais en tout cas, c'est pas les 400 ans qu'on a eu au départ. Avant de répondre à ça, et surtout, on va voir deux autres points qu'on a dans la table du Seder. Quels sont, si je demande à n'importe quelle personne ici présente, les deux mitzvot principales? On a sept mitzvot le soir du Pessah. Quels sont les deux mitzvot principales que nous avons le soir du Seder? Ça, c'est pour toi.
Lire la Megillah.
Je pense que c'était encore avec Purim. J'étais bien consorti de Purim. Bravo. Lire la Megillah. Ok, lire la Haggadah. Très bien.
Matzot.
Alors, tu peux énumérer les sept si tu veux. Mais j'ai dit, donne-moi deux plus importantes. Quatre coupes de vin, quoi d'autre? Maguid a compté la gada, elle a dit. Très bon, elle a dit boire les quatre verres de vin, manger la matzah, compter la gada, etc. Maintenant la question elle est, pourquoi quatre verres de vin? Tunisien, ils ont un problème avec ça. Pourquoi quatre? C'est quoi le chiffre quatre? Et comment tu sais combien il faut boire? Sur le vin? Combien quelqu'un boit le vin de Pessah le soir de Seder? Qu'est-ce que vous dites vous?
Les quatre exils.
Les quatre exils, mais qu'est-ce que vous dites? Combien il faut boire? Vous vivez les quatre verres?
Les cinquièmes
avec les centimes. Vous vivez ou vous vivez pas?
C'est
les quatre,
mais pas
deux. Vous vivez du champagne? La liqueur? Prenez de la raque?
Quelle quantité?
Quelle quantité?
Bah oui.
Une seconde, qu'est-ce que vous vivez? Dites-moi. Peu importe. Combien? C'est quoi ça? Montrez sur un verre.
C'est non, je pense que c'est 20 centilitres.
20 centilitres. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, vous?
25.
25, pourquoi pas? Pourquoi pas 26 déjà, si vous dites 25? Okay. Combien?
Un révite.
Combien il faut boire? Qu'est-ce que tu dis, toi, monsieur le rabbin?
Aucune.
T'as jamais fait Pessah?
Il ne boit pas.
Qu'est-ce que tu bois, Pessah? Toi, tu bois ce qu'on te donne, quand tu t'endors. Et quelqu'un, il vous demande, qu'est-ce que je dois boire? Quelqu'un vous appelle la veille de Pessah, comme les questions qu'on reçoit en tant que rav régulièrement, les gens t'appellent, je ne parle pas seulement des gens avec des problèmes de santé. Quelles sont les quantités minimum qu'on doit boire? Qu'est-ce qu'il faut boire le soir de Pessah? J'ai tel et tel vin, j'ai tel et tel problème de santé, le docteur m'a interdit. Quelles sont les quantités minimum? Qu'est-ce qu'il faut boire pour faire la mitzvah? Oublions Pessah, passons Kiddush Shabbat. Vous faites Kiddush le vendredi soir, samedi. Combien il faut boire de vin? Combien vous buvez? Vas-y, dévoile à tout le monde une bouteille, deux bouteilles. Combien? Oui, mais d'où on apprend ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un revit?
C'est Chai,
Chai la vie. Quel rapport avec Chai maintenant?
C'est pas revit.
18 quoi? 18 verres? 18 centilitres. 8 centilitres.
8, 9 quoi.
8, 9, 18. Oh, Hachem, c'est les juifs, j'ai pas de limite. Juste vers le vin, vers moi, vraiment. Tout a une source, chers amis, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Regardez, pourquoi on boit 4 verres? Alors, bien sûr, comme a dit, comment vous appelez? Le rabbin Chai a répondu. Et c'est à cause des quatre exils. Alors la Torah nous fait allusion, la Torah mentionne justement quatre différents termes qui font allusion à l'exil. Votseti, je vous ai fait sortir, Vitsalti, je vous ai libéré, Velagaati, je vous ai sauvé, Velakarti, je vous ai pris. Ça, c'est la raison pourquoi on a quatre verres, et après on verra pourquoi les trois matzot. Mais pourquoi on n'a pas dit qu'on prend quatre feuilles de salade? Pourquoi on n'a pas dit pourquoi on ne prend pas quatre feuilles de, je ne sais pas, quatre cuillères de réfort, ou quatre comme chez les Ashkenaz, etc. Torah Chaim, Rabbi Avraham Chaim Shor, on va tout de suite voir. La Gemara Chulin 91, un des grands rabbins de Galicia qui était en Pologne, il vient et il nous raconte justement, il y a 400 ans, Rabbi Avraham Chaim Shor, en Torah Chaim, il te dit que Kos, qu'est-ce que ça veut dire Kos en hébreu ? Un verre. Un verre, le compte numérique c'est quoi ? Chaf c'est 20, Vav 6, Samer 60, 86. De là on apprend que pour être quitte de la mitzvah, de kiddush ou quoi que ce soit, il faut boire 8 centilitres 6. 8.6. Ça c'est le compte. C'était pas loin, il y en a qui ont dit 18. Les juifs toujours faire du rab, toujours doubler. Mais 8 centilitres 6 c'est minimum et c'est pour ça. Alors ça c'est des verres de 20 centilitres. Vous savez que ça existe, qu'on a au Betravad, quand je donne aux prisonniers, parce que je suis revenu des prisons, etc., quand on donne aux détenus ou quoi que ce soit, même dans les hôpitaux, on a des verres de 10 centilitres. Des verres de 10 centilitres, c'est en général minimum syndical, on va dire. Après, on ne rentre pas dans les détails, 20 jus de raisin, mais minimum 10 centilitres. Et quelqu'un qui ne peut pas boire plus, il n'a pas un devoir de prendre des verres de 20, 30, 40 centilitres, et ça existe. J'étais à un mariage avant-hier à Rebini, il avait sous la choupa, ils ont pris un verre qui est certainement 2 litres de vin, même la bouteille entière. Et le rabbin, il voulait absolument, il fallait remplir le verre. Je ne sais pas c'était quoi le but qu'il voulait, il y avait 200 personnes, pour que chacun boit un peu du verre. Mais il n'y a pas lieu d'avoir un tel verre sur la table du CDR, si quelqu'un il veut boire, pourquoi pas, mais en tout cas, le minimum, 8 centilitres, c'était là qu'on apprend. D'accord ? Alors, au départ, on te dit que le peuple juif devait avoir 430 ans de quoi ? D'esclavage. Et Dieu, il a diminué à un cinquième. On en a fait 86. Dieu, il a fait en sorte qu'ils n'ont que 86 ans d'esclavage et pas plus. Vous avez ça dans le chiffre 3. On va passer le temps. Parce qu'on traduit, vous pouvez le lire après. Maintenant, le parasha Vayigash, qui est juste avant, dans la Genèse, nous raconte le moment où Yosef s'est finalement dévoilé à ses frères. Yosef s'est dévoilé à ses frères, et Yosef, il a dit la fameuse phrase, « Ni Yosef, je suis Yosef, Aod Avi Chai, est-ce que notre père, mon père, est encore vivant ?» Yosef, il demande à ses frères, une fois qu'il s'est dévoilé, tout le monde connaît l'histoire, il a été vendu, et il a dit, « Venez, allez montrer à papa que je suis encore en vie, et ramenez-lui des cadeaux. Vous pouvez passer les plateaux, vous pouvez manger, hein, bien sûr. » Bravo Jérémy. Comme je dis dans tous les cours, les gens ils mangent comme ça, moi ils parlent pas. Mais là ils parlent pas même sans manger. Vous pouvez manger. Mangez, mangez, servez-vous avec grand plaisir, pourquoi pas.
Et vous aussi servez-vous.
Oui, bien sûr. Mais on peut faire les danses.
C'est difficile.
Oui. Donc Yosef il vient et qu'est-ce qu'il décide ? Pour montrer à son père comme quoi il a fait, il est vivant et qu'il est toujours juif et qu'il est toujours pratiquant et qu'il n'a pas oublié ce qu'il a appris. Yosef il a envoyé des cadeaux à son père. La Torah nous raconte que Yosef a envoyé des cadeaux à son père. Et qu'est-ce qu'il a envoyé ? Il a envoyé à son père 10 ânes avec toutes les bontés qui existent en Égypte. Pour toi qui es parti en Égypte, qu'est-ce que tu as ramené comme cadeau à André ? Tu ne vas pas avoir autre. Tu n'as rien ramené. Tu n'étais pas d'accord avec André. Ah, c'est pour ça que tu as évité. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de bon en Égypte, chers amis ? Qu'est-ce qui pousse en Égypte ? C'est reconnu, qu'est-ce qu'il y a ? Hein? De l'eau.
La Torah te dit que
y a pas, si tu vas chercher quelque chose de particulier, tu as des dates partout, il n'y a pas que en Égypte de dates. Mais la Torah te dit, Rashi te dit qu'il a emmené toutes les bonnes choses qui existaient en Égypte, il n'y avait pas tous ces plateaux. Mais Rashi te dit deux choses. Yain Yashan, du vieux vin, que c'était du vin qui veut dire qui a maturé énormément de temps en Égypte. Et le Midrash, il vient et te dit Grissim Shel Paul, il te dit des pois chiches, avec lesquels on fait du houmous. On va savoir si c'est pas de là que les Israéliens ont inventé le houmous, etc. Et c'était, on va dire, le manger national, ça a toujours existé dans la Méditerranée, que les gens mangeaient du houmous, etc. Maintenant, moi, je vais vous demander une question sincère. Un enfant qui n'est pas été chez lui à la maison pendant 22 ans, qui a disparu chez ses parents, et qui décide de donner un cadeau à son père, finalement, qui revient maintenant à la maison. Je te garantis que si tu envoies à ton père un paquet de houmous que tu as acheté à l'aéroport à Ben Gurion, je ne sais pas s'il va être content en se disant « j'ai pas vu mon fils 22 ans et la seule chose qu'il a trouvé à me ramener, c'est une pote houmous. » Alors même si à Ben Gurion, ils sont bons à te vendre, tu achètes deux, tu en as deux gratuits et tu as 500 grammes et 1 kilo de houmous.
Ils sont très forts.
Les gens, la vérité, c'est ça que tu ramènes en tant que cadeau. Tu es parti en vacances, tu reviens, tu achètes un pote houmous. Et pas seulement ça. La terre d'Égypte n'est pas connue pour avoir des vins de Bordeaux ou des vins de Californie ou des vins du Golan. Je pense pas qu'il y a des vins locaux en Égypte. Surtout pas des vins de qualité. Et c'est quoi cette histoire que Yosef, il envoie à son père, il envoie une bouteille de vin, il lui envoie des tonneaux de vin, et il lui envoie des grains de houmous, des grains de pois chiches, pour faire avec ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Du houmous, d'accord. Imaginons-nous un instant qu'on doit donner un cadeau au rabbi. Je me rappelle dans les dollars du dimanche, j'ai eu la chance de passer des dizaines de fois, c'est pas des centaines de fois. Et des gens sans arrêt venaient ramener au rabbi des cadeaux, des choses qu'ils ont fabriquées, des montres, des choses qu'ils ont. Pour faire. Mais toi, tu viens voir quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un d'important, et tu l'amènes à pot roumous. Tu dis, écoute, je t'ai amené quelque chose, alors tu vas dire, j'ai amené un pot roumous libanais, mais non. C'est pas vraiment le cadeau qu'on donne à qui que ce soit. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay vient et nous donne une réponse. Il te dit que Yosef, il savait très bien que son père, il connaissait la douleur que son père il avait, le fait qu'il est parti de la maison de son père. Pour consoler son père, il lui a envoyé du vieux vin. Yain Yashan, vieux vin, c'est le compte numérique 430. Yain, c'est 2 fois 10, c'est 50, ça fait 70. Yashan, c'est 10, Shin, 300, Nun, 50, ça fait 430. Yosef, il vient, il lui dit, sache une chose, même si depuis le départ, ça avait été prévu qu'on devait rester 430 ans d'esclavage, il n'y aura pas 430 ans d'esclavage, ça c'est numéro 1, la vision qu'il va lui faire passer. Paul, en hébreu, c'est pas le nom Paul, mais Paul en hébreu veut dire un grain de pois chiche, Paul Garus, c'est le compte numérique 116. Il vient et fait allusion à son père en lui disant que oui, les 116 ans depuis que Lévi est décédé, jusqu'à la sortie d'Égypte, ça sera aussi pas les 116 années d'esclavage qu'il y aura en Égypte, c'est pas forcément ces années-là qu'on va rester en Égypte. Ça, c'est le chida. Mais encore une fois, avec ça, on n'a pas répondu à la question comment au final, de 430, 400, 210, 116, on est arrivé à 86. Et on va voir aujourd'hui, ce soir, ensemble, une merveilleuse réponse que Rabbi Dubevitch nous a donnée, qui est très riche pour comprendre comment dans la vie on peut être heureux. Comment dans la vie on peut éviter de se faire des soucis, éviter de se faire des problèmes. Comment malgré n'importe quelle circonstance, alors on ne parle pas maintenant de la résilience, c'est le cours de dimanche soir, vous pouvez voir sur etora.fr, on parle de comment malgré n'importe quelle situation dans laquelle une personne se trouve, savoir ouvrir les yeux, regarder les choses de manière différente. Savoir lever la tête sur l'eau et ne pas s'énerver dès que quelqu'un t'a doublé sur la route, ou comme on arrive des fois parce que quelqu'un était sur un stop, ou alors j'étais sur le péri, c'était bloqué, et les gens ils font avec tous leurs états, savoir rester zen comme on dit, quoi qu'il arrive, sans stress. Ce qui s'est passé en Égypte, la première des choses que Jacob il a fait avec ses élèves, avec ses enfants, il a ouvert ce qu'on appelle un Beit Talmud. Tout le monde nous dit qu'il est parti, il a installé là-bas une maison d'études, dans laquelle le peuple juif va pouvoir s'asseoir, apprendre la Torah d'ailleurs, au départ, avant l'esclavage, c'est ce qui se passait. Et la Gemara nous raconte que pendant toutes ces années-là, les Shvatim, les tribus, ils se sont fatigués avec ce qu'on appelle ce joug de la Torah. Ils se sont fatigués en étant pas forcément mélangés dans tout ce qui était les travaux forcés et l'esclavage, mais ils étaient en train d'apprendre la Torah, comme c'est écrit dans les chiffres 4, la Mishnah de Avot. Maxime de nos pères, chapitre 3, verset 5. Quand un mekabel à la vol Torah, tout celui qui accepte sur lui le joug de la Torah, Dieu lui fait passer de lui, ol malchut vol erher, et il n'a pas le joug de la royauté, et tout ce qui est les travaux forcés, etc. Viens le Zohar, volume 3, page 153. Il te dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient amers? Vaimar ou votre c'est avec la Torah? Ce n'est pas ça qu'ils ont fait la Torah, les mitzvot, je ne cache pas que, on vient de fêter la fête de Pourim. Le peuple juif, c'est le peuple le plus bizarre, dans laquelle à chaque fois qu'on te demande de faire une mitzvah la plus compliquée, ils sont tous prêts à le faire. Kippour, et pas un juif, pas Kippour. Tu dis Pourim, fais Mishlach Panot, échange deux gâteaux avec un autre ami, et tu prends la tête, laisse-moi tranquille, c'est trop facile. Fais les choses difficiles. Pessah, pourquoi pas? Tu dis quelque chose de simple, prends une pièce, mets dans la tzaka. Non, je suis fatigué. C'est les choses les plus simples. Tout le monde va faire après, si tu veux le coup, la vente du Khamet. On a l'habitude de vendre Pessah, de vendre le Khamet pour séparer de son Khamet, avec le Khamet sur la table, comme je fais depuis quelques jours, sans avoir mangé le Khamet. Quelle guerre il faut faire avec des Juifs pour demander de vendre le Khametz? On dirait, qu'est-ce que tu as déjà demandé? Écris ton adresse, partout il se trouve, même si tu n'as pas encore rangé, c'est vendu, au moins tu es qui? Même si tu l'as fait 10 fois, les gens te disent, ma femme le fait pour moi, mon mari le fait pour moi, mon voisin le fait pour moi. Qu'est-ce que ça te dérange? Ça te prend 2 secondes. Les choses faciles, on ne peut pas faire. Ah, tu lui dis, viens, maintenant il faut jeûner 24 heures, je suis prêt à le faire, monsieur le rabbin, on va commencer à jeûner. Pourquoi faire des choses compliquées? La Torah te dit, oh, le Torah, c'est tellement simple. Fais ce que Dieu t'a demandé, automatiquement tu n'auras pas de soucis. Ça, c'est le Zohar. Mon ami te dira juste à ça dans l'écoute de Sichot 15, page 408-409. Et quand un juif il se fatigue et prend sur lui le rôle de faire la Torah et les mitzvot, automatiquement Dieu lui enlève les autres soucis. Ça ne veut pas dire que c'est ou l'un ou l'autre. C'est que quand quelqu'un il sait qu'au final, ce n'est pas tous les rendez-vous que je vais faire aujourd'hui qui vont m'amener la parnassa, mais il sait que c'est la bracha que Dieu il envoie dans mon travail qui va m'amener la parnassa, il dort déjà beaucoup plus tranquille. Quand quelqu'un il se lève le matin, la première des choses qu'il dit c'est Modéani. Modéani qui veut dire remercie-je. On appelle ça un moment dans le cours de dimanche, on ne dit pas « je remercie ». ».« Je remercie », c'est « animode ». Tu vas te dire de dire « remercie-je ». Français, quelqu'un te dit « remercie-je », tu l'envoies à l'hôpital psychiatrique, je ne sais pas s'il y a de la place. Normal, en hébreu, tu dis « moderni ». Qu'est-ce que ça dit « moderni » ? Dieu veut qu'on s'habitue que la première des choses du matin, tu te réveilles, première des choses, dis merci. Tu as ouvert les yeux, tu es réveillé, dis merci. Tu as un travail, tu as un toit sur la tête. Tu peux travailler. Quand on s'apprend, ça veut dire que personne ne pourra m'enlever ce qui m'appartient. Quand on s'apprend, ça veut dire que ce n'est pas parce que je travaille de 5h du matin à minuit que je vais avoir plus d'argent, je vais avoir plus de réussite. Dieu, il a prévu ce que chacun doit recevoir et à nous de faire tous les efforts nécessaires. La Torah ne dit pas pour rien qu'à chaque fois qu'elle te parle de faire Shabbat, la Torah te dit 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. Elle ne dit pas 6 jours tu te reposeras et tu te travailleras un jour par semaine. Oui, même quelqu'un qui est milliardaire, il a le devoir de travailler. Mais au final, ça c'est un moyen pour pouvoir recevoir la bénédiction que Dieu a destinée pour nous de toute façon. On a le devoir de faire le maximum ce qui dépend de nous. Ne pas perdre la tête, ne pas perdre de vue que ce n'est pas parce que je vais courir encore un rendez-vous qui va faire en sorte qu'automatiquement je vais gagner telle ou telle chose. Et quand tu demandes à quelqu'un que tu as mis les tefillin aujourd'hui, tu dis, je n'ai pas pensé, je n'ai pas eu le temps. Là, on est avant le coucher du soleil, je vais attraper. Des fois, ça arrive, on peut oublier. On va voir des histoires intéressantes que j'ai rencontrées les derniers jours. Mais au final, quand on a ce qu'on appelle les pendules à l'heure, et on sait que Dieu m'a donné la vie ce matin, Dieu m'a donné la santé, Dieu il a fait en sorte qu'aujourd'hui je peux marcher, je peux respirer, je peux bouger, je suis redevable. Le fait que je suis redevable de dire merci, ça c'est la première des choses. Et le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, il est justement construit de cette manière. En te disant, comme au départ on te dit, Adam et Chava, Adam et Ève, ils ont fauté, ils ont été renvoyés du paradis. Cain, il a tué son frère, il y a eu le premier terroriste sur terre, les premiers enfants qui sont nés, il a tué son frère parce que Dieu il a accepté le sacrifice de l'un et pas de l'autre. Après on a l'histoire de Noah, Ham, comment il fait honte à son père. Après on a l'histoire de Yehuda avec Tamar, comment avec, il a soi-disant eu des rapports avec cette fille prostituée alors qu'elle était sa belle-fille. Et finalement on arrive dans le Chumash Shemot qui est l'exode et là tout se renverse. Tout d'un coup on te parle d'une souffrance de 86 ans pour un peuple qui n'a absolument rien fait. Il n'y a personne qui peut venir te dire pourquoi le peuple juif devait être exilé en Égypte. Pourquoi on devait avoir cette souffrance en Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour avoir ce passage d'exil en Égypte. C'est à toi que je demande la question. Tu es assis en face, parce que Jérémie ne veut pas répondre. Jérémie, qu'est-ce que tu réponds toi? Pourquoi on a été en Égypte? Tu peux me dire, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour aller en Égypte?
Pour avoir été après entrer en Israël.
Pas besoin, garde ton Israël, on ne même pas en Égypte. Tu sais, il y a une phrase que la Gemara te dit, Rashi dans le Chumash, te dit, l'homme est douf, chèvre, l'homme est outser. Par rapport à une abeille, ne donne pas ni ton miel ni ta piqûre. Garde ton miel et garde ta piqûre.
C'est pour libérer les étincelles.
Les tensions.
Non. C'est pour les étincelles qu'on a...
Là, tu parles déjà dans ce qu'on appelle le monde très mystique. Ouais. Mais nous, on est terre à terre. Va dire à une personne qui doit se faire opérer, tu sais quoi, passe par le bloc opératoire, on va te découper un morceau, on va faire avec toi, je sais pas quoi, de la chirurgie plastique, on va te faire, je sais pas, de la plomberie. Et au final, grâce à ça, tu vas toucher telle et telle simple. Déjà tranquille. Laisse-toi que tu as besoin d'aller dans un bloc opératoire, faire opérer pour rien, pour ta beauté, pour faire... Il y a quelque chose de... Il doit y avoir quelque chose de plus profond, parce qu'encore une fois, on parle... Pour être sauvé.
Il y avait la famille, donc à Canaan.
Non, mais je te parle que Dieu il dit à Abraham au départ que tes enfants vont être esclaves dans une terre qui n'est pas la leur, ils vont souffrir, et après ils vont sortir avec une grande richesse. Abraham, la première des choses qu'il aurait dû dire, il dit, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille, pas grande richesse, tout va bien, la vie est belle, laisse-moi où je suis, tranquille, pourquoi j'ai besoin d'aller souffrir? Donne Yitzhak à Babanel, on a entendu parler, ministre des Finances en Espagne, un des plus grands commentateurs de la Torah. Il donne 8 réponses à cette question. Attends tous les voir ce soir. 8 réponses très intéressantes. Là, on te dit parfois que c'est peut-être une punition à Abraham, parce qu'Abraham a demandé à Dieu, il a douté sur le fait que Bameda qui est Rachena, comment je vais avoir cette terre? Dieu dit, ah, tu doutes? Je vais t'envoyer là-bas, même si tu ne veux pas. On ne va pas entrer dans les détails de toutes les questions-réponses. Ou bien une autre réponse, que c'était une punition au fait qu'ils ont vendu Yosef, les frères, pour ça ils sont envoyés en Égypte. Mais comme je dis, c'est facile de dire que puisque tes arrière-grands-parents se sont mal comportés, pour ça tu payes aujourd'hui. Tes arrière-grands-parents ne sont plus là aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, on veut enlever les allocations des parents en disant, puisque les enfants, c'est des délinquants, quel rapport? C'est les enfants qui ont fait, ce n'est pas les parents. Tu sais, les parents sont responsables. Mais là, la Torah te dit, tu parles d'une histoire qui s'est passée il y a 400 ans. Tu dis, pour ça, les petits-enfants, ah, les petits-enfants, c'est eux qui doivent payer, avoir 86 ans de stérage. Admor HaZaken, qui est l'auteur du Torah Or dans la Chassidut, il explique comme la 7e explication d'Abamanel. Et il te dit que l'esclavage en Égypte n'était pas une punition. Ce n'était pas une punition, c'était au contraire, c'était un mode adapté, c'était une préparation pour pouvoir justement savoir comment sortir d'Égypte. Quelqu'un qui n'a jamais eu un ennui dans sa vie, le jour où il a le premier ennui, il rate un avion, il fait une crise cardiaque sur le champ. Le jour où sa valise n'est pas arrivée avec lui, il tombe dans l'avion. Quelqu'un qui a eu l'habitude d'avoir un ennui, d'avoir une épreuve, d'avoir un défi et qu'il a réussi à surmonter ce défi, il devient beaucoup plus solide, il devient beaucoup plus, que la Gemara nous dit, Ein chacham ke ba'al anisayon. Il n'y a pas de quelqu'un intelligent comme quelqu'un qui a passé une épreuve. et n'importe quelle épreuve, toute épreuve confondue. Quelqu'un qui n'a jamais été mis à l'épreuve, c'est ce que je veux aujourd'hui, responsabiliser les enfants. C'est vrai que certains parents disent non, il faut tout faire pour eux, il faut tout faire pour papa, il ne faut pas qu'ils se dérangent, pas qu'ils se fatiguent. Je veux au contraire, quand tu apprends un enfant à se débrouiller tout seul, plus il apprend à devenir autonome et se débrouiller dans tout, plus il grandira beaucoup plus vite et plus il deviendra autonome. Mais si jusqu'à 18 ans, 20 ans, tu dis que toi, c'est papa et maman qui doivent tout faire pour lui, il n'a pas le droit de rien faire à la maison. Le jour où tu demandes de faire quelque chose, il est perdu. Il n'a jamais épluché quoi que ce soit à la maison, il n'a jamais cuisiné quoi que ce soit, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Pourquoi tu veux que tout d'un coup je fasse quoi que ce soit? Trois fois dans le Tanakh, trois fois dans la Bible, la Torah nous mentionne Mitzrayim, l'Égypte, comme cour à Barzel. Qu'est-ce que ça veut dire cour à Barzel? C'était l'endroit dans lequel on forgerait le fer, on travaillait avec le fer. Comme les métaux, comme l'or que tu travailles sur terre, on sait que l'or en général est mélangé avec plusieurs autres matières qui sont l'argent, le platine, l'étain, le nickel. Et pour distiller l'or pur, on a besoin de chauffer l'or à un niveau très élevé de 1000 degrés en général. Et comme ça, l'or commence à couler et ça devient une matière qui est séparée des autres matières. Avec ça, on peut avoir tout ce que tout le monde a sur les mains, le cou, les bagues, les 18, 72 carats, va savoir n'importe quelle différente matière d'or. Dans l'humain, on a exactement la même chose. On a ce qu'on appelle les matières premières, on a les matières qui sont mélangées avec le reste, on a cette émouna, cette foi en Dieu qui est ancrée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comme je racontais dans le cours du dimanche soir sur la résilience, que les nations du monde aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre comment une terre comme Israël, qui est attaquée de tous les fronts, depuis 6 mois, là c'est pas depuis 6 mois, c'est depuis plus de 80 ans, mais depuis 6 mois encore plus, qu'est-ce que les Yémen se mélangent à envoyer des missiles sur Eilat? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on leur a demandé exactement? Qu'est-ce que quelqu'un est parti s'installer au Yémen pour aller en vacances? Qu'est-ce que les Houthis envoient des missiles? Qu'est-ce que chacun des quatre coins d'Israël s'est dit, on va profiter, puisque le Hamas, c'est comme ce qu'on a vu avec Pourim, avec Amalek, puisque le Hamas a sauté sur l'occasion, ben on va en profiter aussi. Mais le monde regarde Israël et s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette terre. Tout va bien, tout le monde fait la fête, tout le monde. J'étais avec les soldats, c'était juste après le 7 octobre, un mois après, quand on a la mission Solidarité Israël pour la 19e fois, je raconterai après. Les gens, ils dansent, les gens font des mariages, il y a des fêtes. Bien sûr qu'on pense à nos 134 otages tous les jours, et malheureusement, ça nous fait la peine à chaque fois, chaque jour qu'on entend encore un soldat qui a été tué. Mais, au même instant, on sait qu'il y a des dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de soldats qui se battent sur tous les fronts. Et grâce à Dieu, ils ont des énormes réussites, avec des miracles sans fin, à peine ce qu'on a prouvé, si tout le monde connaît les nouvelles. Il y a à peine 2 jours, dans la maternité de l'hôpital, Shifa, qui est la plus grande maison terroriste qui existe, des quantités d'armes que je ne sais pas, même, je sais pas si à Paris il existe des quantités d'armes. Mais les soldats eux-mêmes n'arrivent pas à croire de ce qu'ils trouvent, ce qu'on trouve tous les jours, ce qu'on découvre tous les jours. Et le monde se dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un si petit pays, avec une si petite armée, qui se fait attaquer de tous les fronts, la vie continue, comme si rien n'était. Est-ce que ça, c'est pas ce qui s'appelle la résilience qui tient et qui fait durer le peuple juif? L'endurance que malgré toutes les difficultés, depuis 3000 ans d'histoire, alors que tellement de peuples ont essayé de tout faire pour nous anéantir, pour nous abattre, on vient de fêter Pourim, 2500 ans, Amalek, on n'y a rien demandé, qu'est-ce qu'il est venu sur la trajectoire, il est venu se mélanger. Et néanmoins, on réussit à être présent. Tous nos ennemis sont peut-être sur Wikipédia, une demi-page et un corps, mais c'est écrit dans les commentaires complétés, les informations sur les Grecs, les Roms, etc. Et le peuple juif est toujours présent. Et ça, c'est le secret de pourquoi on est passé en Égypte. Parce que pour pouvoir arriver vers Matan Torah, qui était le don de la Torah, Dieu l'a demandé au peuple juif, on a le devoir de se préparer comme n'importe quel aujourd'hui soldat, comme vous avez vu, n'importe quel soldat d'élite qui se prépare avec les unités d'élite, qui doivent travailler parfois pendant 1 mois, 6 mois, 1 an de préparation à ramper dans la boue, sous des grillages, sauter par des murs, sur des cordes. Les choses les plus atroces, c'est quand je parle avec les soldats de ça, les plus belles unités, ils te racontent des fois qu'ils craquent au milieu. C'est pas possible. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à arriver jusqu'à la fin. Mais quand tu leur demandes au départ, t'es sûr que t'es prêt, t'es sûr que t'as envie de faire un tel, pas un sacrifice, un tel effort, ils savent c'est quoi le résultat à la fin, pour faire partie des unités d'élite. Mais pour ça, il faut travailler dur. Pour ça, ça demande énormément de sacrifices. Et ils savent qu'au final, à la fin, ils vont recevoir ce fameux béret, ce fameux kouta, comme on appelle. Mais la réalité, c'est que ça passe par énormément de sacrifices, énormément d'efforts difficiles, et que pas tout le monde est fait pour pouvoir. Là, Dieu a voulu préparer le peuple juif en disant, tu sais quoi, le peuple juif va, à travers toute notre histoire, va subir, va avoir des difficultés. Et ce n'est pas forcément des difficultés qu'on a cherchées ou qu'on veut, c'est des difficultés qui sont parfois imposées. Et pour pouvoir les surmonter, on doit passer par cette période qui était la période de l'Égypte. Comme on dit une maman qui doit accoucher après 9 mois de grossesse, qu'elle sait que tôt ou tard, va passer un moment dans lequel il va avoir l'expulsion, qui est le moment qui fait mal, même avec l'épidural, même avec tout ce qu'on veut. Au moment, ce n'est pas des moments, je ne suis pas une femme, et grâce à Dieu, j'ai la chance d'avoir des enfants. Et on sait que c'est un moment difficile. Et je ne pense pas qu'une maman va dire je suis prêt à avoir un enfant, être enceinte, sans passer par ce moment-là. Par où tu veux qu'il soit l'enfant? Par où tu veux qu'il se passe? Même l'intelligence artificielle n'a pas encore inventé des moyens, des techniques qui peuvent se passer, qu'il n'y a aucune douleur ni quoi que ce soit. Alors quand on demande à quelqu'un quelles sont les vraies valeurs dans la vie, qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux tenir debout malgré n'importe quelle difficulté? La Mishnah nous dit, dans Pirkei Avot, qu'on demande à chacun d'entre nous d'être comme un roseau et pas comme un cèdre. Quelle différence entre un roseau ou un cèdre, Alexandre? Je sais que tu es agriculteur, tu travailles dans la forêt.
Roseau.
Un roseau et un cèdre.
Il plie, mais il casse pas.
Quoi d'autre? Comment tu t'appelles?
Julien.
Qui d'autre?
On a dit ici le roseau, il se plie, il se court, alors que l'autre il se casse.
Magnifique. Le roseau, il est capable, c'est pas comme les bâtiments de Tokyo ce matin, le roseau, il est capable de se courber avec n'importe quel vent. Mais il remonte après, une fois que le vent il est passé, il est revenu devant. Le cèdre, il est peut-être très fort, très solide. Mais Dieu nous en préserve, une fois qu'il y a un vent qui est passé, il est tombé, il n'est plus là. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle te dit, le Olam, il y a un Amrach, Kakanel, Fond de la Torah, elle te demande à chacun d'entre nous d'être tendre comme un roseau. Un des Shluchim du Rabbi en Amérique, au Minnesota, il s'appelle Moshe Feller. Aujourd'hui, il est déjà âgé, je m'appelle de lui, mais il m'a raconté une fois une histoire. La première fois qu'il est parti à Minnesota, c'était dans les années 70. Après, je vais raconter une histoire avec Rudy Bashevis, le sénateur américain, avec la Matzah. Mais en tout cas, il a demandé conseil au Rabbi la première fois avant d'arriver en Shlichut à Minnesota en demandant comment réussir dans ma mission. Conseil général. Le Rabbi lui a donné une phrase. Le Rabbi, sache que dans la vie, il faut savoir être flexible. Pas comme le flexible qu'on a pour l'électricité. Après, c'est la même chose. Être flexible. Flexible, ça veut dire c'est quoi? Des fois, tu peux préparer un cours sur un sujet. Des fois, tu... Mais il y a des fois des circonstances dans la vie, tu dois savoir. Tu ne peux pas être rigide. Ça, c'est la différence entre un roseau et entre... À quoi servait l'esclavage en Égypte? L'esclavage en Égypte, c'était justement pour apprendre au peuple juif savoir être comme un roseau. Avec les difficultés, il y aura des difficultés. Et il y en a eu depuis la période d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera terminé quand ma chair sera là. Celui qui pense un jour que l'antisémitisme va disparaître, il faut qu'il change de planète. La Gemara nous dit que depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, il y a eu la haine du juif qui a été créée. C'est ça qui nous envie. Quel pays sur Terre peut être capable de recevoir des bombes et des missiles à longueur de journée sur la tête, comme si rien n'était? Tu veux avoir des missiles sur la tête? T'as jamais. J'étais le 14 novembre sur la bande de Gaza. Je sais pas si, je pense que vous avez vu le film, je vous ai envoyé le clip. J'étais dans 4 bases militaires. C'était un mois après. Chaque année, on a votre abat cinéma, on a la mission Solidarité Israël, on offre des tefillines aux soldats, des grillades, etc. On n'a pas attendu la guerre pour le faire. Mais cette année, on devait aller au mois de mars. Et les commandants m'ont appelé en me disant, après ce qui s'est passé, viens maintenant, c'est maintenant que les soldats ont besoin, renforcer, etc. On a eu des grillades organisées pour 750 soldats, les distributeurs ont perdu des tefillines. Il fallait voir la joie et les danses. Il y a le clip, tout le monde peut le voir. Allez, c'est là, Audrey. Un mois après. J'étais à la première base, on était, c'était Machane Iftar. Machane Iftar, c'est à côté de Zikim. C'est pour ceux d'entre nous qui ont visité Gaza et qui sont partis se promener là-bas, dans les kibbutzim, c'est juste la frontière. C'est vraiment, les grillages de la base, ils sont dans Gaza. On a vu les grillages découpés, c'était juste un mois après. Et la base militaire qui est juste de l'autre côté. Dans cette base, on est passé voir les têtes cutaniotes, les fameux soldats qui sont dans le bloc en ciment dans lequel ils ont les écrans pour voir ce qui se passe dans Gaza. Dans cette base-là, tous ces soldats ont été sauvés. C'est un miracle. Dans l'autre base, à Nachalos, qui est à quelques centaines de mètres, malheureusement, ils ont tous été tués ou capturés, etc. Mais dans cette base, ils ont été sauvés. Ils nous racontaient, on était dans la chambre, il y a les écrans, on était avec eux. Comme quoi, ils ont vu les terroristes rentrer, il y a eu des combats pendant 3 heures, etc. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que pendant qu'on était là-bas, ils nous ont dit, dès qu'on est rentré dans la base, que si jamais il y a Tsev à Adam, il y a l'alerte rouge, avec les missiles qui tombent, il faut courir sur l'abri. Là, il y a l'abri, on nous court avec les soldats, il faut courir ensemble. Donc on a commencé à mettre les grillades en route. Et c'était 1 heure d'après-midi, et il y a les soldats qui rentrent des jeeps qui reviennent de Gaza aller-retour. Et tout d'un coup, on entend, c'est vrai, Adam, c'est juste pour nous tester, voir si on est capable de courir. T'as l'alerte rouge qui arrive, et là, tous les soldats commencent à courir sous la migounite, sous le bloc en ciment dans lequel on se protège. Moi, je cours avec les soldats, avec ma femme, on court avec les soldats. Dans la barre, on entend les boum boum dans l'air. Et je parle avec une soldate à côté de moi de 26 ans. J'ai dit, dis-moi, c'est une vie. Est-ce que c'est normal de vivre comme ça? C'est moi, je viens de France, je suis libre 48 heures. Pour être là avec les soldats, danser avec eux. Mais eux, ils sont là tout le temps. Et la soldate me répond, avec les autres soldats autour, en rigolant. Avant même, ils me disent, écoute-moi une chose. Aujourd'hui, c'est ragoua. Aujourd'hui, c'est calme. Il y a quelques semaines, tu vois, ça tombait toutes les minutes. Là, un mois, une semaine après, c'est tous les quarts d'heure. C'est calme. La vie est belle. On avance. Cette endurance, c'est grâce à nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Cette capacité de pouvoir rebondir, cette capacité qui sont avec malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, malgré ça, savoir rebondir à chaque fois, savoir pouvoir. Ça, c'est grâce au fait qu'on est passé par l'Égypte. Regardez comment le dernier paragraphe, dans l'écoute de Sichot 1, page 5. Ça veut dire que parfois, quand quelqu'un a des soucis pour la panassa, c'est que grâce à ça, parfois, quelqu'un peut chercher, peut-être penser en dehors de la boîte. Et parfois, il peut se dire, essayer de se dire, comment trouver un issue au problème. Quelqu'un qui n'est pas passé par un souci, pas forcément qu'il trouve un issue au problème. En tant qu'aumônier des hôpitaux que je fréquente toutes les semaines, combien de fois je dis quelqu'un qui n'est pas parti visiter un malade dans un hôpital, il ne fait pas forcément attention à la santé de la même manière que quelqu'un qui visite un hôpital ou que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui a lui-même une maladie. Quand tu visites un hôpital et tu ressors et tu vois des gens qui boivent à la cuillère, ou tu vois des gens qui respirent en bouchant un trou sur la gorge, ou tu vois des gens qui ont des machines de tous les côtés, et tu ressors et tu te dis, tu as la chance de marcher sur deux pieds, avec deux mains, et tu respires, combien on est redevable, combien on est redevable, c'est ce qu'on dit tous les jours, mode dernier, remercier le bon Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela pour nous dans la vie de tous les jours? Avant de terminer avec ce calcul, comme on l'a dit tout à l'heure, que la Bible explique que ce n'était pas forcément 430 ans d'esclavage, ce n'était pas fait pour avoir 430 ans d'esclavage. Voyons un autre calcul, un autre débat qu'on voit régulièrement par rapport à la sortie d'Égypte. Et encore une fois avec un chiffre qui nous dérange. Parce que la Torah, elle te dit que dans la paracha Béchalar, qu'on a lu il y a quelques semaines, et c'est la paracha qu'on lit le soir du jour de Pessah, combien de Juifs, quand Pharaon il a renvoyé le peuple juif d'Égypte, Chamushim alou bnei Israël, meretz Mitzrayim. Peuple juif, ils sont sortis d'Égypte chamushim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot chamushim? Rashi vient et te dit, mais où yannim, ils étaient armés. Armés pour se battre. Ça, c'était chamushim. Très bien. Mais Rashi vient et te dit, c'est pas seulement le sens simple. On sait que dans la Gada, le soir de Pessah, on a tous l'habitude de verser le vin. Il y en a qui trempent le doigt dans le verre avec les 10 plaies. Et là, on commence à nous raconter que quoi? Qu'en réalité, c'était un cinquième du peuple juif qui est sorti d'Égypte. Est-ce que c'est ce qu'on dit dans la Agada? Je raconte une. Il faut aller à la Agada, vous lisez la Agada une fois en français? Oui. Ça, c'est ce que. Merci. T'es d'accord ou pas? Tu lis la Agada? En quel
langue? En français, parfois un ou deux passages en espagnol.
En espagnol? Pourquoi en espagnol?
Parce qu'on vient de là-bas aussi.
Magnifique. Et tu lis en français, tu lis la Agada?
Le deuxième jour.
Et pourquoi pas le premier jour? Comment tu fais le premier jour?
Il est tout en hébreu.
Pourquoi qu'en hébreu? Tu comprends l'hébreu?
Le deuxième jour, c'est.
C'est plus cool.
Là, c'est celui. Celui qu'on fait en diaspora. Donc c'est plutôt pour les gens qui ne parlent pas en Israël, qui parlent pas.
Et le premier jour, mais tu comprends le mot du moment?
Non, je comprends pas.
Non, c'est du.
Tu veux écouter un conseil? Lis la Agada en français du premier jour et deuxième jour. Mets le bon côté.
Aussi, ou...
En français. En France au français. En français, tranquille. Clairement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, une des mitzvot de la Torah, c'est pas une mitzvot des chachamim. Une des mitzvot, d'ailleurs, j'allais plus que ça. C'est, à part la mitzvot de manger la matzah, la seule mitzvah de la Torah que nous avons le soir de Pessah, c'est de raconter la Haggadah. Qu'est-ce que ça veut dire raconter la Haggadah? Parler en chinois? J'ai rien contre les chinois, mais si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu vas parler dans la langue que tu comprends. Qui c'est qui a raconté? Vous vous disiez en quelle langue?
En français.
En français?
Maintenant en français.
Ah d'accord, ça a changé. C'est important. C'est pas, je dis, personne, je veux dire clairement, c'est tout le monde. Pourquoi lire en phonétique? Phonétique, c'est ni l'hébreu ni le français. Ça ne veut absolument rien dire. Et lire en français. Ah, je ne parle pas des brachot. Des brachot, on ne dit pas béni sois-tu l'éternel, notre Dieu, que tu as créé le vin, tu bois le vin. On fait bourré pré-agrafène, pas grave. Mais je veux tout le reste. Il n'y a pas plus beau que lire en français, il faut participer tout le monde. Ça, c'est une parenthèse. En tout cas, on dit dans la Agada, et c'est pour ça que c'est important de lire en français, parce que c'est un paragraphe qu'on lit. Qui c'est qui devait s'occuper de la photographie, c'est toi? Ah.
J'ai pris de.
Ah, d'accord. Bon, elle a été attitrée pour la presse. Audrey. Mais en tout cas, c'était quoi l'idée? C'était quoi l'idée qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Un cinquième. La vérité, je ne sais pas si ça va faire avec les Tunisiens. Combien de gens sont sortis d'Égypte? Combien de peuples juifs sont sortis d'Égypte?
600 000.
600 000. 400 000. Qui c'est qui dit plus? Qui c'est qui dit moins? Hein? Combien de personnes sont sorties d'Égypte?
Des hommes, de hommes et femmes.
Hommes, femmes, enfants. Hommes, femmes, enfants.
On ne comptait pas les vieillards et les enfants.
Combien au total avec vieillards? Pourquoi ce n'est pas des vieillards qui comptent pas? Les seigneurs?
3 millions.
3 millions.
5 millions.
5 millions.
5 millions
500. 5 millions 500. Qu'est-ce que vous dites-vous? Plus. Vas-y. Qu'est-ce que dites-vous?
Comme lui.
C'est-à-dire, il a rien dit. Combien de personnes sont sorties d'Égypte? Comment, qu'est-ce que vous dites-vous?
C'est 3 millions.
Combien de personnes?
Je crois que
6
millions.
Hein?
Avec les enfants et les.
6 millions. Alors regardez. Au final, on t'a dit au départ qu'on était la Torah, t'a dit 600 000 personnes. Mais 600 000, c'était seulement les humains, les hommes de 20 ans et plus. Maintenant, il y avait aussi au moins 600 000 femmes, et ça c'était de 20 à 60. Maintenant, certainement que si on calcule 600 000 hommes, femmes et âgés qui étaient au-dessus de 60 ans, on peut facilement arriver à 1,8 million. Trois fois le calcul, d'accord? Si tu dis que minimum chaque famille elle avait deux ou trois enfants, tu sais qu'en Égypte, ils accouchaient 6 enfants en une fois. D'accord? C'est ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? On ne sursaute pas. Ça, c'est ce qui se passait à l'époque. En tout cas, on est arrivé à 3 600 000 minimum de calcul, d'accord? Quand tu me dis qu'il y a une avis qui te dit que c'était 20% du peuple juif, ça veut dire que 18 millions du peuple juif sont morts en Égypte. Si tu dis qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sorti, donc après le calcul, combien de fois, d'accord? Et ça veut dire qu'en 3 jours, 14 400 000 après notre compte. Si tu dis que c'était que 2% du peuple juif, ça veut dire qu'il y a eu 180 millions du peuple juif, 176 millions sont morts. Bref, on parle ici des chiffres astronomiques qu'on n'a jamais entendu parler. Et tous les soirs de Pessah dans l'Agada, on raconte tous la même histoire en disant qu'on est sorti un cinquième d'Égypte, etc. La question, elle est tout d'abord, c'est la plus grosse Shoah qui existe sur la planète. On n'a fait pas un monde de ça. On n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les soirs de Pessah, on répète qu'on est sorti qu'un cinquième? D'après les calculs, quand tu dis un cinquième, tu calcules tout de suite. Ça veut dire quoi? Que des dizaines de millions de Juifs sont morts en Égypte. Ça veut dire quoi? Qu'une partie infime est sortie. C'est quoi ce miracle? C'est pas un miracle qu'on doit fêter les soirs de la sortie d'Égypte. En plus que le Midrash te dit que Be'et Samayam Azeh, tout le peuple juif est sorti d'Égypte. Mais la question qui dérange, c'est plus que ça. Combien d'années on a dit qu'on était en Égypte, d'après ce qu'on vient de voir? Disons qu'on était au total 210 ans, on enlève l'esclavage, pas l'esclavage. Combien tu peux avoir des dizaines de millions de personnes d'être en 210 ans? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? T'as des filles qui sont 20 enfants par fille? De quoi tu racontes? Il y a un moment, il faut être commun avec son... Et la troisième question qui dérange, où t'as enterré ces millions et des millions de personnes? Pourquoi tu parles? Les dizaines de millions de personnes qui ont été enterrées, c'est pas logique. En 1965, et avec ça on va terminer ce soir, le Rabbi donne une magnifique réponse. Le fabricant de Pessah, dans le discours de Pessah, le Rabbi te dit qu'en réalité, c'est la manière comme on regarde les choses. On sait très bien que les quatre fils qui sont présents à la table du Seder, on a le Chacham, on a le Racha, le Chacham c'est l'intelligent, le Racha c'est celui qui est la mauvaise personne. Le Tam, celui qui ne s'est pas posé de question, le Tam, celui qui est simple, et le Sheinu Yodea Lishaal qui ne s'est pas posé de question. Mais on te dit une fameuse phrase que le rabbi précédent avait l'habitude de dire. Chacham, Mahou, Omer. Qu'est-ce que ça veut dire? Non.
Quoi?
Tu mets la virgule à l'autre endroit. Chacham, Mahou. Qui est un Chacham, Omer, tu peux le savoir en fonction de ce qu'il dit.
C'est bien ça.
D'accord? Différent, on met la virgule séparément. Tu veux dire que quoi? Qu'au final, on doit réfléchir et se dire que quand tu es en train de lire la Haggadah, et tu dis qu'on est sorti un cinquième, et tu fais un calcul, parce qu'Adam t'a posé la question, on était 200 millions, 160 millions, peu importe. Pas possible. Faut bien. Rabbi te dit la réponse, elle est très simple. La question, c'est pas combien ils ont été vivants, combien ils sont morts, combien ils sont sortis. C'est pas ça le débat. Le débat, il est combien l'impact des croyants dans la sortie d'Égypte a réussi à influencer tout le reste du peuple. Tout le monde est d'accord que le peuple juif est sorti d'Égypte. La Mishnah de Midrash te dit, Kol Tivat Hashem Yatsu, on est tous sortis. Très bien. Sinon, il n'y a pas de quoi faire une fête. C'est un deuil plus qu'autre chose. C'est un deuil national. Mais les Chachamim débattent combien le miracle était puissant. Le Midrash était débat, est-ce que c'était tout le peuple qui a été emmené par cet élan de vouloir sortir, se sortir de l'Égypte, ou une partie? L'extrême avis, c'était quoi? Que seulement 2/10 ont cru à ce que Moshe il a dit. Tu veux dire, 99,8% du peuple juif s'est dit, on n'y croit pas. On ne va pas y arriver. Pharaon, on est esclave éternel. Il pensait que le Satan, il est puissant. On ne va jamais sortir. Où on va aller? Dans le désert. Le désert qui est grandiose. Comment on va sortir des millions de personnes dans un désert sans manger, sans, avec la chaleur? On ne va pas y arriver. Maintenant, ces 2%, combien de voix? Ces 2/10, ne se sont pas émus du fait que la majorité ne croyait pas à la parole de Moshe, au miracle. Ils se sont dit non. On vient de voir les 10 plaies. Dieu ne va pas nous abandonner dans le désert. Celui qui nous a protégés jusqu'à maintenant, il continuera à nous protéger. Deuxième avis, c'est l'avis qui rajoute en te disant que non. Oui, c'est vrai qu'il y avait plus que ça, il y avait 2% qui ont cru, mais néanmoins, tu as encore 98% qui n'ont pas cru. Ils se sont dit que Mitzrayim, l'Égypte, c'est mieux que tout. Et néanmoins, ces 2%, ils ont réussi à impacter le reste en leur disant, même si vous ne vous êtes pas convaincus, venez avec nous, vous allez pouvoir vous en sortir. Et la première avis dans le Midrash, elle n'est pas simple. Elle te dit qu'il y avait seulement 20%, elle a dit un cinquième, qui te disait qu'il y avait 80% qu'ils ont préféré rester, mais au final, ils ont réussi à impacter tout le reste. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est que le peuple juif est appelé Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Ça n'existe pas un juif qui ne croit pas. Et je peux vous dire, je rencontre tous les jours des juifs qui me disent, monsieur le rabbin, je ne crois pas, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est la parole. Quand tu rentres dans l'action, tous les juifs croient. Ça n'existe pas un juif qui ne croit pas. André, elle sait qu'en Seine-et-Marne, les juifs ne sont pas forcément comme ceux qui habitent dans cette région. C'est un autre monde. Tu passes de 94 à 77. C'est ce qu'on appelle les Français campagnards. C'est des juifs qui sont vraiment un autre monde, une autre planète. Et combien de fois tu rencontres des juifs qui te disent, monsieur le rabbin, pour moi, la religion, ça ne parle pas. Ça, c'est la parole. Mais chaque juif est ma'amin, ben ma'amin, chaque juif fait la émouna à l'intérieur de lui. La question, elle est, combien cette émouna, elle est dévoilée, combien elle a un impact sur sa vie de tous les jours. Et ça, c'était le débat qu'il y avait à l'époque. Ça, c'est par rapport à la fête de Pessah, par rapport à la quantité de juifs qui sont sortis. Tout le monde croyait combien l'ont mis en avant et combien ils ont réussi à impacter leur famille, leurs proches. Ça, c'est le débat, est-ce que c'était un cinquième ou pas. Dernier point qu'on voit ce soir avec la spécialité de Pessah, c'est qu'il y a encore une mitzvah qui est faite par rapport à Pessah, et qui est seulement pour Pessah et pas tout le reste. C'est qu'on avait l'habitude au temps du temple d'avoir le sacrifice de l'agneau pascal. Et on sait que le sacrifice de l'agneau pascal se faisait seulement avec la famille et les amis. C'est une des raisons pourquoi la fête de Pessah, on réunit le maximum de monde tous ensemble. Viens, la Torah, elle te dit, c'est la seule mitzvah que la Torah, elle te demande de le manger avec tes voisins, pas tout seul. La fête de la musique n'est pas existée seulement en France depuis combien, je ne sais pas combien d'années, ça existait depuis l'époque. La Torah te dit que c'était un mouton par famille, et si tu n'avais pas assez pour manger un mouton, il fallait rassembler les voisins, les amis, les proches, et avec ça, se réunir. Très bien. Moi, je demande une question. Est-ce que vous connaissez une autre mitzvah dans laquelle la Torah te dit qu'il faut rassembler la famille et les amis?
Shabbat.
Où c'est écrit? C'est qui a dit Shabbat?
Non,
où c'est écrit qu'il faut avoir forcément invité la famille et les amis? C'est bien, c'est tout ça, encore une fois, c'est une bonne chose, c'est bien d'avoir des invités. Mais j'ai une mitzvah que la Torah te dit que tu dois partager avec les autres. Au contraire, la Brit-Mila n'invite pas. Ils ne sont pas obligés de venir. C'est justement pourquoi on n'invite pas. On n'invite pas parce que si tu invites et la personne dit je ne peux pas venir, c'est une insulte à Eliyahu, pour ça on n'invite pas. Alors on fait savoir. Bien sûr que oui. Bien sûr qu'on a le droit, il faut inviter Shabbat. Mais je parle en mitzvah que la Torah te dit qu'il faut inviter. Ou Koupa, qui a dit Koupa? Vous avez dit Koupa, comment tu t'appelles?
Douglas.
Combien de personnes il faut pour faire une Koupa?
Non.
J'ai dit combien il faut minimum,
halakhiquement parlant.
Deux témoins.
Deux témoins, c'est pour pouvoir valider le mariage. Mais il faut 10 hommes. Un mignon, sans plus, pas plus. Malheureusement, on a vu ça pendant le corona, etc. Les gens se sont mariés, ils ne pouvaient pas rassembler beaucoup de monde. Ils n'ont eu que 10 personnes, ils n'ont pas besoin d'ajouter plus de monde.
Ouais,
mais néanmoins, la Torah, elle te dit, c'est mitzvah de la Torah, que Pessah Nechal Bachabura, le sacrifice de Pessah, doit être mangé avec la famille, avec les voisins, avec les assemblées. Ce qui veut dire qu'on devait rassembler la famille, et si on n'est pas suffisant pour le mouton, on devrait partager avec tous les autres. Très bien. Ça veut dire quoi? De là est venu, bien sûr, ce que les gens ont l'habitude de faire la mimouna à la fin de Pessah. C'est venu une coutume répandue, Ashkenaz, Sepharad, on a Sefarad Machère, le repas de Machère à la fin de Pessah, etc. Pourquoi la Torah ne te dit pas que le repas avant Kippour, avant le jeûne, doit être mangé avec tous les amis, toute la famille ensemble, ou à la fin de Kippour? Ma mère avait l'habitude d'écrire des lettres à l'occasion de Pessah à tous les peuples juifs partout où il se trouve pendant 45 ans, qui étaient traduits dans tous les journaux, en anglais, en hébreu, etc. Dans une magnifique lettre qu'il a écrite en 1979, il donne la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire Chag HaChirut? Qu'est-ce que ça veut dire la fête de la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Libre, tu peux être seulement quand tu sais mettre ton ego de côté et regarder l'autre. Quand tu es capable de partager avec l'autre. Pas pour rien que quand on dit le Chaim dans la Torah, on dit jamais le Chaim tout seul. Peut-être qu'il y a des exceptions. En règle générale, quelqu'un qui dit le chaim, c'est à la vie, c'est au pluriel. C'est avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui boit tout seul, en général, je le rencontre en psychiatrie, on va savoir dans les différentes unités, et ça, on ne voit pas tout seul. L'idée, la Torah, elle te dit que pour sortir d'Égypte, tu ne sors pas tout seul. Sortir d'Égypte, ça doit avoir avec une certaine inquiétude envers l'autre, partager avec l'autre, agir envers l'autre, faire en sorte de penser à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le message de la fête de Pessah. Je ne peux pas moi-même sortir d'Égypte si je n'ai pas partagé cette liberté avec quelqu'un d'autre, si je n'ai pas réussi à influencer de sortir l'autre d'Égypte. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont te dire, laisse-moi tranquille avec ces bêtises, ça ne me parle pas. Mais le peuple juif à l'époque, ils étaient aussi minoritaires qui ont cru dans les paroles de Moshe. Et néanmoins, ils ont réussi à impacter tous les peuples juifs. Voilà, chers amis, quelques notions qu'on apprend sur la fête de Pessah. Permettez-moi de terminer avec une histoire. Et s'il y a des questions, objections, pourquoi pas. Plusieurs histoires, parce que la fête de Pessah, c'est la fête de stress pour certaines personnes. Il faut se rappeler que Pessah, ce n'est pas la fête du ménage.
Pessah, ce n'est pas la fête de la Shabbat de commencer à refaire toute la maison. Ce n'est pas la fête de faire la peinture, ou de recommencer à faire la moquette, ou de recommencer à faire le sol, ou de commencer à chercher les armoires. On va savoir, je ne sais pas quoi. Et la question que je peux vous dire en tant que rave que je reçois régulièrement, ça fait de la peine parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que le ménage du mois d'août, c'est la période de Pessah. Pessah, on a le devoir de chercher le chametz, numéro 1. Chametz, c'est tout ce qui est le levain et tout ce qui sont des choses qui sont plus fermentées, qui est chametz qu'il faut s'en séparer, la Torah dit qu'il faut mettre de côté. Très bien. Quelqu'un qui sait qu'il a des pièces dans lesquelles il n'a jamais fait rentrer du chametz de sa vie, ou de toute l'année, qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas? Je ne sais pas, ici, dans les planches, regardez les planches qu'il y a en haut. Je ne sais pas si Adam, une fois, il est monté pour mettre un morceau de gâteau au-dessus. Un exemple. Ou bien Tata Alice, une fois, elle s'est ennuyée, elle s'est pendue à la planche. Elle est partie manger un morceau de chametz là-bas. Quelqu'un normal, il n'est pas parti mettre du chametz là-bas. Qu'est-ce que tu vas chercher au-dessus? Ah, tu veux nettoyer la poussière? Pourquoi tu ne l'as pas fait toutes les semaines? Qu'est-ce que tu as attendu Pessah pour le faire? Et il y a des gens qui se rendent fous Pessah avec des ménages qui est sans fin. Et qu'ils arrivent, je ne vois pas l'histoire des cédères, pire que des esclaves. Ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire la fête de la liberté. Mais après, ils te demandent des questions, des choses. Est-ce qu'on doit déplacer tel meuble? Qu'est-ce que tu es parti chercher derrière le meuble? Qu'est-ce qui te dérange? La souris qui s'est cachée toute l'année. Laisse-la tranquille pendant Pessah. Tu vas la chercher après. Tu vas pas la chercher pendant Pessah. Deux histoires. Fameuse histoire dans les dollars du dimanche. On compte à chaque fois une femme juive est passée à une grand-mère. Elle est partie, elle s'est plainte au rabbi en demandant, en disant au rabbi qu'il y a quelque chose qui me dérange, on n'arrête pas de faire le ménage à la maison et les enfants, ils n'arrêtent pas de salir. Et elle est dans tous ses états, elle passe. C'est le seul problème. Les gens viennent voir le rabbi avec des problèmes de vie ou de mort, avec des problèmes dans les affaires. Elle, c'est ce qui les dérangeait. Comment ça se fait? Vous n'arrêtez pas de faire le ménage et les enfants n'arrêtent pas de salir. Le rabbi lui a répondu, rappelle-toi que les enfants ne sont pas l'agneau pascal et que la poussière, ce n'est pas du chametz. L'idée, c'est. Bien sûr, il faut faire le ménage, il faut enlever le chametz, c'est pas autre chose. C'est simple. Mais il y a un deuxième point sur lequel je vais rentrer, je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Je parle pas du riz, ou pas le riz. Je sais pas s'il y a des Tunisiens ici ou pas. Il y a des Tunisiens parmi nous. Hein, il y a qui?
Il y a
Tunisiens? Oui? Ok. Combien de fois je reçois des questions par rapport, si je vais manger chez l'un, je vais manger chez l'autre? Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? Cacher, non cacher? Mais eux, ils mangent du porc, moi je mange pas du porc. On parle parlant du riz. On a un devoir, je sais pas, encore une fois, le plan Vigipirate n'est pas appliqué dans la Torah. Que quelqu'un, il a sur lui une certaine khumra, il a une certaine rigueur. Et que quelqu'un, il a décidé que Pessah ne peut pas manger un certain produit pour mille et une raisons, ou parfois il n'y a pas de raison. Peu importe ce qu'il a pris pour lui. Avec quel droit tu te permets d'imposer à l'autre, voire dénigrer l'autre, voire rabaisser l'autre, voire considérer que l'autre qui ne fait pas comme toi, il est zéro. On a le devoir de se dire, tu sais quoi, il y a des juifs qui font attention à manger que la matzah shmura, la matzah ronde, tête à la main. Comme on distribue aujourd'hui, à partir depuis une semaine en Seine-et-Marne, à 1500 familles sur toute la région, plus de 300 communes et au-delà. Il y en a qui mangent la matzah carrée. Chacun. C'est vrai que pour la matzah du Seder, c'est bien d'avoir la matzah shmura, c'est important. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un il fait des choses différemment que forcément il est mauvais. Forcément il n'est pas bien. Et forcément, je n'ai pas le droit de rentrer chez lui. Parce qu'eux, ils ne sont pas à mon niveau. Je dis, c'est des questions que je reçois chaque année. Et c'est important de se rappeler que. À partir du moment que c'est quelque chose qui est basé dans la halakha et qui n'est pas contre la halakha, on a le devoir de se dire que le peuple juif n'est pas fait d'une image, il n'est pas fait d'une coutume. Il y a 7 branches à la menorah, il y a plusieurs manières de pouvoir faire la Torah. Et bien sûr, encore une fois, tout le temps que c'est accepté d'après la halakha, c'est magnifique. Mais ce n'est pas pour autant que si moi j'ai décidé de faire quelque chose et l'autre ne le fait pas, automatiquement l'autre il est mauvais, moi je suis bien. Pour ça, je vais terminer avec une histoire courte. Shabbat, par exemple. On n'a pas l'habitude de tremper la matzah dans l'eau. Pendant tout Pessah, on a l'habitude de faire attention de ne pas mélanger la matzah dans un liquide. De peur qu'il y ait de la farine qui est restée sur la matzah et que si tu trempes dans l'eau, pas dans du jus ou quoi que ce soit, mais dans l'eau, elle peut gonfler. Et comme dans le vin, elle est parfois mélangée avec de l'eau, donc on ne trempe pas la matzah, on ne fait pas le msouki, on va savoir tous ces autres plats. Tu peux le faire après un autre jour. Mais Pessah, on évite de mettre la matzah en contact avec du liquide. Du coup, une khumra, c'est une rigueur qui existe chez Chabad et qui existe chez beaucoup de communautés. En 1942-43, aux États-Unis, le rabbi précédent venait d'arriver de l'Europe sous le régime nazi, il a été sauvé, il est arrivé à l'époque, comme le rabbi jusqu'en 1970, ils avaient l'habitude d'avoir 10, 15, 20 invités à leur seder. Des gens qui étaient choisis pour pouvoir participer à son seder. Et il y avait à l'époque un juif polonais. Donc il y avait, imaginez-vous le décor, le beau-père du rabbi, le rabbi précédent qui a beaucoup souffert sous le régime communiste, il était au seder, assis à la tête de la table, avec une vingtaine d'invités, tous des barres blanches, des gens de grands évédits. Parmi eux, il y avait un juif polonais sans barbe qui vient de sortir de la Shoah, je rappelle, 42-43, et qui était aussi invité à la table du Seder. Et lui, il a décidé de faire son kiff. Il voit la matzah sur la table, il prend son verre de vin, il commence à tremper la matzah, il mange. Et il se rend chez lui à la maison. Pourquoi pas? Il a été invité. Il va se gêner. Il ne connaît pas forcément les coutumes des uns des autres. Mais imaginez-vous le décor, vous avez 20 personnes autour. Alors, le précédent, il était handicapé, il était assis à la tête de la table. Et tout le monde commence à lui sauter dessus. Tout le monde. Imaginez tout le monde. Comment tu oses? T'as sali la vaisselle? T'as rendu impur? Ça va dans tous les sens. Quand je vous dis ce que moi j'entends, sans limite. Dans tous les sens, les gens, ils sont descendus. À la rigueur, la personne s'est dit, je ne sais pas où mettre. Le seul qui n'a pas parlé, c'était le rabbi précédent. Et tout le monde attendait la remarque. La vérité, quand le rabbi est là, ben, déjà, c'est toi. Et attends que le rabbi dise qu'il a quelque chose à dire. Tout le monde lui est sauté dessus. Parce qu'il a fait quelque chose qu'on ne fait pas ici, dans cette maison. Une fois qu'ils ont terminé, le rabbi précédent, il regarde tout le monde. Il faut que ça s'est calmé, l'attention. Et il dit, vaut mieux avoir une matzah rouge qu'une figure rouge. C'est pas la fin du monde si quelqu'un il est venu chez toi à la maison et il a fait quelque chose que toi t'as pas la coutume de faire. Je dis, j'ai l'habitude de votre rabat, des invités qu'on a dans le Seder, c'est pas tous des Lubavitch, c'est pas tous des religieux, on a des gens avec mixte, tout bord, avec tout bord, juif ou non juif. Si quelqu'un il a fait, encore une fois, il n'y a rien d'interdit à l'arrêtement, il n'est pas venu avec un sandwich, jambon beurre sur la table du Seder, c'est pas de ça qu'on parle. Il a mangé la matière dans le vin et là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Rudy Bershevitz, et après si vous avez des questions. Rudy Bershevitz, un sénateur juif américain qui est un des plus grands défenseurs d'Israël, aujourd'hui très connu sur la planète, vous pouvez chercher sur Google. Il nous a raconté à nous, au Shluchim, comment il est devenu religieux pratiquant. C'était dans les années 70 à Minnesota, c'est pas New York, il n'y avait pas de juifs pratiquants religieux à l'époque à Minnesota. Et le rabbi avait depuis 70 ans, cette année ça fait 70 ans que le rabbi a lancé cette campagne de s'assurer que tous les juifs font la matzah shmura. Le rabbi a envoyé son émissaire, M. Feller, en lui disant... Je te demande de prendre ce sac avec la matzah donné à Rudy Bershevitz, le sénateur. M. Feller, qui est l'étudiant du rabbi, tape au bureau du sénateur. La secrétaire ouvre la porte et dit, vous avez rendez-vous? Elle fait non. Elle va voir le sénateur juif américain, juif, laïque à l'époque. Et il dit, il y a un rabbin, certainement il est parti demander un don, parce que les rabbins ils n'ont rien d'autre à faire. Et il te dit qu'il a une sac pour toi. Et Rudy Bershevitz dit, j'ai pas de rendez-vous, je vais rien demander. Lui qui prend son sac, qui va voir ailleurs, j'ai pas le temps pour lui. La secrétaire qui était sympa, elle dit, écoute, il est venu, il a un colis, il a une passelle, il a quelque chose pour toi, prends le sac et ça dérange, 2 minutes, prends le sac, merci, au revoir. Il rentre dans le bureau de Rudy Bershevitz et il lui dit, le rabbi de Lubavitch m'a donné cette matzah pour que tu puisses manger le soir de Pessah. Rudy Bershevitz répond, moi et la matzah ça fait 10, moi je ne suis pas Pessah, moi je mange porc, pain, tout ce que vous voulez pendant Pessah pour le mérite de Pessah. Laissez-moi tranquille, écoute, matzah, donnez ça à quelqu'un d'autre. Et le Schler, M. Feller, il dit, écoute, moi je suis juste un travailleur pour FedEx ou UPS. Moi, c'est un colis que la vie m'a donné pour toi. Fais ce que tu veux avec. Et ça, c'est du 18 au 24 avril. Je te demande une chose, soir de Pessah. Prends la matzah, prends un morceau. Qu'est-ce qu'il y a? Le peuple juif mange la matzah. Fais partie du peuple juif. Merci, au revoir. Passe 3 mois. Rudy Bershevitz, le sénateur, rencontre M. Feller dans un événement à Minnesota. Il dit, tiens, je vais te raconter une histoire. Tu te rappelles, tu es venu me voir dans le bureau, tu m'as donné la matzah, ton sac et tout. La vérité, je ne sais pas quoi faire avec. J'ai gardé la matzah dans mon sac. Tous les dimanches matin, j'ai l'habitude d'aller jouer au golf à 1h30 de Minnesota. Pourquoi? Parce qu'après que j'ai fini de jouer au golf à midi, il y a là-bas un cheeseburger que j'achète juste à côté du terrain de golf, que le goût de ce cheeseburger, je ne peux pas trouver dans tout Minnesota. Ça, c'est ma norme depuis des années. J'avais dans ma sacoche ton sac avec la matzah. Ce dimanche de Pessah, j'ai décidé, je vais me faire un kiff. J'ai acheté mon cheeseburger, j'ai enlevé le pain, j'ai mis la matzah à la place et j'ai eu un kiff que j'ai jamais eu dans ma vie. Ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Et il attend la réaction. Non, moi, je vous demande, comment vous vous appelez?
Laura.
Laura. Quelqu'un te raconte une telle histoire, qu'est-ce que tu lui dis?
Tu dis,
si, j'ai pas le temps ce soir de faire un tour de chacun, mais je veux dire les réactions que je reçois de quelle saleté, quelle hypocrisie, t'as pas honte, comment t'as fait? Alors, M. Feller le regarde et il lui dit, tu peux pas t'imaginer le bonheur que tu as fait envers Dieu cette année en mangeant la matzah. Rudy Bershevitz nous a raconté cette histoire, j'ai entendu de lui, il nous a raconté en disant, ça c'est ce qu'il a fait ce déclic, de se dire, il faut que je pratique la Torah. Aujourd'hui c'est un juif religieux pratiquant à 100%. C'est un des plus grands défenseurs d'Israël sur la planète, cherchez son nom sur Google. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? On a tous des frères, des sœurs, des amis, des cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, voisins, qui que ce soit, qui ne sont pas forcément au même niveau que nous, qui ne sont pas forcément aussi pratiquants qu'on voudrait ou quoi que ce soit. Je reçois parfois des questions de parents, que les enfants ne sont pas forcément dans la communauté, ils ne sont pas forcément avec quelqu'un. Mille et une questions. Et combien on a parfois tendance à être avec un plan vigipirate envers l'autre? Et combien parfois on oublie que le plan végétarien doit d'abord s'adapter à soi-même. Et le jour où je suis 100% parfait, je peux demander à quelqu'un d'autre d'être 100% parfait. Et je pense pas que sur Terre, il y a quelqu'un qui est 100% parfait, à part le bon Dieu. Au final, la Torah nous demande d'avoir cette flexibilité, d'avoir ce roseau, d'avoir cette capacité de pouvoir regarder l'autre. Il a fait une mitzvah, c'est magnifique. Il n'est pas resté tous les seder, c'est très bien. Il est venu au seder, il a participé au seder, il est venu avec quelqu'un que... Il est là au seder. Valorise cet effort. Valorisons cette mitzvah. Et ça, c'est ce qui a fait en sorte que le peuple juif est sorti d'Égypte. Que Dieu fasse que nos frères et sœurs en Israël soient protégés dans les quatre coins du monde, et surtout en Israël. Que nos soldats réussissent dans toutes leurs missions à éradiquer le mal. Que les 134 otages soient guéris rapidement. Que tous les malades puissent être guéris rapidement. Et que Rachamim Ben Aziza du ciel où il se trouve prie pour ses enfants, petits-enfants et toute la famille. Que Dieu fasse qu'encore avant Pessah, comme la Mishnah nous dit, on va commencer Shabbat Benyé le mois de Nissan. Que Benissan Nigalou, Benissan Atidin Legael, on a été libéré le mois de Nissan, qu'on soit libéré pendant le mois de Nissan qui arrive. Le cours sera en replay, comme d'habitude, sur retora.fr, vous recevrez le replay après. S'il y a des questions, n'hésitez pas.